Entre là, d'autres excès inavouables. Les sexes, les crayons, les couteaux, aiguisés sur les bras des jeunes filles. Je vois en chaque fille aux cheveux longs et soignés une profiteuse de guerre. Je les imagine se baignant dans du lait, se séchant au feu de la misère et enduisant d'onguents leur corps sans brûlure. J'ai compris plus tard qu'il existe de nombreuses zones auxquelles mesurer la résistance. Par exemple, au courage de laver et soigner et conserver ses longs cheveux. Une femme me dit « Je veux qu'ils sachent, ces salauds là-haut, que s'ils m'abattent, ce n'est pas un chien qu'ils auront abattu, mais une belle femme. » Elle dit encore, et elle parle en serrant les poings, « Je suis une belle femme. » Le tailleur chic est sa tenue de combat. Elle force ses chaussures à talons à courir à la vitesse des bottes de sept lieues. Là-haut, le loup et l'ogre sont derrière leurs fusils à lunettes et nous regardent parler. L'annonce nous pétrifie. Un obus vient de tomber sur une école primaire, tuant et blessant de nombreux enfants. Une heure plus tard, nous avons rendez-vous avec un homme que nous savons avoir un fils qui fréquente cette école. L'heure passe à l'attendre. Rien ne peut nous divertir de cette attente. Encore une demi-heure, encore un quart d'heure, la porte s'ouvre. Il est là, sous la question brûlante de nos regards. « Mon fils, non, balbutie-t-il. Pas de sang, mon fils, mais le sang, les autres enfants, pas mon sang aujourd'hui, demain ?» Il s'écroule sur une chaise. Nous restons longtemps dans le silence. Le téléphone nous en arrache. Il se relève et dit « Je reviendrai demain. » Quand nous, les étrangers, nous sommes arrivés, c'est nos yeux qu'ils regardèrent, étonnés, nouveaux, compatissants, troublés, apeurés. Et ils ont vu dans nos regards que nous étions aussi impuissants qu'eux. Au bout d'un temps beaucoup trop long, His Master's Voice a parlé, et l'Amérique, pendant quelques jours, a tout sauvé. Mais personne n'avait plus la force de chanter. Aujourd'hui, je suis assiégé par mes souvenirs. Je tente d'écrire pour rompre le siège. Les montagnes m'entourent. Je les nomme et chaque nom me brûle la langue. Les flancs de ces montagnes étaient plantés d'herbes douces. Mon désir est de me baigner à nouveau dans la douceur de ces herbes et de m'asseoir sous les arbres de la montagne. Mais je suis aujourd'hui dans une plaine dévastée. Mes montagnes me sont devenues inaccessibles. Mes jambes m'abandonnent, le funiculaire est hors d'usage. Les pieds plantés dans le limon de la plaine, j'agite mes bras comme un épouvantail qui appelle au secours. Je voudrais faire peur à l'ombre des montagnes. On va mieux, mais on craint la rechute. Que l'on s'étudie ou que l'on s'oublie, il y a ce risque de chuter et de rechuter encore. Une fois debout, de s'asseoir. Une fois assis, de se coucher. Une fois couché, de ne pas se relever. Peur de ramper, de faire glisser son corps sur le sol, avec la tête lourde. Il faut résister à nos obsessions, apprendre que les apparences peuvent être plus solides que les murs. que si nous nous forçons à marcher, nous marcherons encore. Malgré l'envie si forte qui nous prend parfois de nous terrer, de nous cacher, de nous rendormir, levés dans d'affreux pressentiments. Il sort de chez lui pour aller au front. À quelques pas de sa porte, une balle perce son menton. C'est un jeune homme naïf, fier d'être soldat, qui sort de chez lui la tête haute. « Nous ne nous laisserons pas faire comme ça », pense-t-il. La balle est restée logée là, dans l'os du menton. La langue a été épargnée de quelques millimètres. Il croit sentir la balle dans sa bouche. Le souffle des explosions a déplacé les parois internes des corps, ou un très léger déplacement, si léger qu'il n'est pas mesurable. Mais l'architecture intime et intérieure ne reconnaît plus ses repères. Parois soufflées ou légèrement disjointes, cours des veines légèrement déviées, alvéoles distendues, spasmes de la paroi stomacale, sphincter affaibli, léger décollement de la plèvre, tissu chauffé par les décharges d'adrénaline, petite lésion très fine à l'intérieur de la boîte crânienne. Imperceptible à l'examen, invisible de l'extérieur. Une légère implosion contenue par l'habit de peau. Parfois, un tremblement des mains échappe. Un voile noir glisse brièvement devant les yeux. Un pas qui déséquilibre. Quelques incohérences s'insinuent dans la construction des phrases. Il se souvient d'une peur ancienne, mais ne réussit pas à se souvenir de ce qu'il redoutait. Il est là, debout au milieu du chemin, stoppé brutalement par la réminiscence. Il lui semble se souvenir du passage d'un chemin vers une route. Son effort de mémoire lui propose trois chiens noirs, gueule ouverte. Il les repousse. Non, il ne s'agit pas de chiens. Mais cependant d'un animal ou d'un groupe d'animaux qui gardaient férocement le passage. Des animaux, se dit-il, aussi grands que l'enfant que j'étais. Oui, les voilà. Et la frayeur intacte le gagne. Les dindons. Ils se ruent sur lui avec leur drôle de démarche, les mouvements de cou menaçants. Ils l'invectivent, l'injurient, ils l'encerclent, impossible de fuir. Ne pas bouger, se dit-il. Ne pas faire de gestes, rester comme une statue, un arbre, un morceau de pierre. Il n'aurait jamais dû venir ici sans armes. Il est pris par la foule hurlante. Les dindons lui crèvent les yeux, cherchent à lui arracher la langue. Il le renverse à terre. Personne n'entend ses cris au milieu des gloussements hystériques. « Il me mange le foie ! Il me mange le foie » crie-t-il. Quinze jours après la signature des accords de paix, un jeune garçon décide d'aller de l'autre côté de la ligne de démarcation. C'est la nuit du Nouvel An. Il est un peu ivre. Ses copains n'ont pas la témérité de l'accompagner. Il veut revoir sa maison, la maison dont il a été chassé l'année de ses 13 ans. Il n'a plus peur de l'ennemi, puisqu'il est dit depuis 15 jours que l'ennemi n'existe plus. La maison où il a vécu ces dernières années se trouve à peine à quelques centaines de mètres de l'ancienne. Personne ne sait ce qui s'est passé depuis le moment où ses copains l'ont quitté. Il n'a jamais été retrouvé. Peut-être, arrivé de l'autre côté, y a-t-il retrouvé son cousin, celui que l'on pouvait voir tous les soirs à la télévision, gorgé de haine et de fanatisme, crachant comme une arme à feu. Mon grand-père me disait « Si je me noie dans la rivière, ne me cherchez pas en aval, mais en amont. » Lu aujourd'hui dans le carnet nécrologique des dernières nouvelles d'Alsace, ces phrases. Nous serons morts lorsqu'il n'y aura plus personne pour se souvenir. Vous n'avez rien à craindre. S'il nous fallait observer toutes les minutes de silence, nous serions définitivement muets.
Chez qui allons-nous, Marie Fréring ?
Chez Vera. Vera Arapovitch, pour moi, c'est un des monuments de Sarajevo. Quelqu'un avec qui on rit, on discute énormément. Quelqu'un qui m'est devenu absolument indispensable.
On avait de plastique sur la fenêtre. J'entendais mon voisin parce qu'il avait aussi le plastique. Quand il disait le matin, qui va chercher le pain parce qu'on irait chercher le pain. C'est des
amis, vous ne connaissez pas ça.
Je me souviens par exemple de Jean, comme je suis née à 40, donc je me souviens. Quand j'avais 10 ans, un de nos voisins était prisonnier quelque part, je ne me souviens plus. Et tout le temps, il ne parlait que de la guerre. Et nous, les enfants, dès qu'on les voyait, parce qu'il aimait raconter ça justement aux enfants, dès qu'on les voyait, on se cachait, on s'enfouillait parce qu'on ne pouvait pas le voir et l'écouter, ces histoires de la guerre. J'ai souvent pensé maintenant à ces voisins, que nous, je vois par exemple mes voisins ici, quand nous fêtons quelque chose, et nous fêtons souvent le mariage des fils ou des filles, les diplômes, je ne sais pas quoi, quand on est à plein table comme ça, plein de je ne sais pas quoi, on commence à parler de la famine pendant la guerre, de manque d'électricité, de l'eau, etc. Chaque fois, chaque nos fêtes terminent par les histoires de la guerre. Mais bien sûr, nous nous souvenons maintenant des histoires rigolos, par exemple. Moi, je pense que c'est parce que je suis vieille. Mon fils, il ne veut plus parler de ça et il dit qu'il a tout oublié. Il ne se rappelle plus de ça. Les jeunes oublient, mais nous ne pourrons jamais oublier ça. Moi, je ne pourrai jamais oublier ça jusqu'à ma mort. Pour moi, ce n'est pas seulement parce qu'on était privé des choses normales, eau, électricité, gaz, nourriture, etc., mais parce que les valeurs morales les plus importantes qui étaient en vigueur, si vous voulez, avant la guerre, elles ont disparu pendant la guerre. Et après la guerre, il y a de nouvelles valeurs qui se sont imposées et établies. Et c'est peut-être ça pour nous aussi, une nostalgie. Ou quand j'ai vu les gens qui étaient tout à fait normaux, même mes amis, mes connaissances, qui sont devenus autre chose, vraiment, qui sont devenus amoraux, qui sont devenus terribles, irreconnaissables. Et j'ai perdu beaucoup d'amis pendant la guerre. Beaucoup sont partis, ont quitté Bosnie-Herzégovine, etc. Mais ceux qui sont restés, nous sommes quand même une minorité, je dirais. Il y a une autre couche de société qui s'est formée maintenant où les gens comme moi n'ont plus de place dans cette couche. D'ailleurs, je ne veux même pas être membre de cette couche de société, de cette classe ou de ce je ne sais pas quoi. Et pourquoi on parle de guerre? Parce que c'est quand même un choc, Marie. Toi aussi, tu étais ici pendant la guerre. Tu ne peux pas dire que c'est une chose normale. Tout est suspendu. Tout ce qui était avant la guerre était suspendu. Et c'était autre chose qui n'était pas pour les gens. Ce n'était même pas pour les bêtes que nous avons vécu pendant la guerre. Je ne me souviens même plus de certains événements ou de certaines histoires ou de certains... Mais je me souviens comme si c'était une durée où la vie n'était pas normale. Pas des événements. Oui, certains événements, on raconte quand on allait prendre l'eau. À ce moment-là, il y a une bombe qui est tombée juste à un pas devant toi. Mais chaque habitant de Sarajevo a une histoire pareille. Pendant 3 ans, parce que ce n'est pas... Quand on dit 3 ans et demi, ce n'est rien. Ça ne signifie absolument rien. Mais ça signifie 24 heures par jour pendant, disons, une semaine. Et après, encore une semaine. Et 1 mois, et 3 mois, et 12 mois, et 24 mois. C'est ça qui est... On ne peut pas imaginer cette durée. Cette durée, quand c'est 15 jours, 20 jours, tu sais que c'est limité, mais tu ne savais absolument pas quand ça va terminer. C'est ça qui t'a tué, n'est-ce pas, cette incertitude. Tu ne savais absolument rien ce qui va se passer. Donc, notre vie pendant ces 3 ans et demi se composait de dizaines et centaines de petits cadres de chaque jour, du matin au soir. Et alors, quand nous sortons, par exemple, mon fils était là, mon mari était là, j'étais là. Mon fils et moi, nous partions travailler le matin. Et mon mari, il allait chercher quelque chose au marché. Et alors, quand nous sortions le matin, on ne savait pas si nous allons rentrer tous le soir. Et alors, quand nous étions tous là le soir, on se disait, « Ah, c'est très bien, encore une journée qui s'est bien passée, parce que nous sommes tous vivants. » La guerre, Marie, c'est la fin... De toute réaction normale, de tout ce qu'on peut imaginer comme solution normale, la guerre, c'est la fin de ces solutions normales. Donc, on ne peut rien retenir de guerre. Qu'est-ce que tu veux retenir de guerre? Il faut se libérer de ce que nous avons retenu, mais je n'arrive pas à me libérer. Bien sûr qu'on n'a rien appris. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'il ne faut pas se battre. Mais on le savait ça depuis Jésus. Et les gens se sont toujours battus. Je pense qu'ici, si tu veux parler de la situation politique, les peuples, les partis, ils n'ont appris rien du tout. Parce que tu sais que nous avons la paix qui est gardée par les forces de l'OTAN. Donc la situation n'est pas normale. Moi, ce que j'ai appris de la guerre, si demain les forces d'OTAN partaient, Sfor, s'ils partaient, moi je prendrais une petite valise, mais toute petite, pour mettre mes documents, etc. Et je partirai avec eux. Voilà ce que j'ai appris. Donc, je ne resterai jamais plus ici sans les forces de l'OTAN. Jamais. Voilà ce que j'ai appris. Je ne sais pas pourquoi ça m'a touchée si profondément. Je ne sais pas. Je pense aussi peut-être parce que j'ai perdu beaucoup d'amis. Ils ne sont pas morts, mais ils sont partis. Donc, il y a peu de gens qui sont de mon avis, avec qui je peux échanger mes impressions du jour ou quelque chose comme ça. Il y a peu de gens, ça me manque, ça me manque. Je ne sais pas, des gens qui sont arrivés maintenant sont trop agressifs. Ils sont, et puis aussi, parce que c'est peut-être parce que le système... social a changé. Auparavant, c'était le socialisme. Maintenant, c'est le capitalisme dur, capitalisme de Marx Engels, quand ils ont écrit Marx Engels, parce que les gens travaillent, ils ne reçoivent pas de salaire. Même chez les privés, ils ne reçoivent pas de salaire, ou bien ils n'ont aucun droit de syndicat, ou le syndicat n'existe presque pas, etc. Pendant 50 ans, j'ai vécu dans une société qui avait le caractère social, qui s'occupait des gens, qui... Maintenant, c'est tout à fait différent. Et ça aussi, parce que je ne suis pas seulement un être émotif et psychologique, je suis aussi un être politique. Quand je vois maintenant tous ces gens, tous ces pauvres gens qui n'ont rien, ils n'ont pas sécurité sociale, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas... C'est vraiment terrible, terrible. Mais je veux dire que ça aussi, ça me rend un peu malade. La nouvelle société, pas tellement la guerre, mais ce qui est ce pays devenu après la guerre.
Tout de suite, enfin très peu de temps après la guerre, tu as écrit un livre de poèmes.
Oui, j'ai écrit un livre de poèmes parce que je pensais que peut-être ça va m'aider à guérir de traumatismes. Et j'ai réussi à me guérir de certains traumatismes, de certains traumatismes. C'était bien pour moi, mais mauvais pour la poésie, bien sûr. Il faudrait attendre peut-être 30 ans pour avoir cette distance historique. Voilà. Je vais donc lire un poème à qui je tiens beaucoup. Elle s'appelle Povratak. Ne zatvaraj vrata. Noćas će možda snagom posljednjom kročiti na prag nemoćan da pozvoni. Ne zatvaraj prozor. Ujutru će možda prije svitanja prstima umornim na staklo kucnuti nevoljan da vikne. Ne gasi svjetlo. Pust može izgledati dom dok se korakom te turavim približava u predvečerje. Ne gubi nadu. Jednom će možda na svi svete buket krizantema na grob tvoj položiti. Après chaque guerre, il y a beaucoup de disparus. C'est une catégorie, ni mort, ni blessé, ni invalide, ni... mais de disparus. Ce poème parle de retour possible, éventuel et désiré d'un cher être, peut-être d'un fils à une mère. Retour. Ne ferme pas la porte. Cette nuit, de ses dernières forces, il va sur le seuil s'arrêter, peut-être trop faible pour sonner. Ne ferme pas la fenêtre. Demain, avant l'aube, il va de ses doigts épuisés frapper contre la vitre, peut-être trop miséreux pour crier. N'éteins pas la lumière. Vide peut paraître la maison pendant qu'il s'approche d'une marche chancelante au crépuscule. Ah, je vais pleurer. Ne perds pas l'espoir. Un jour à Toussaint, il va peut-être un bouquet de chrysanthèmes sur ta tombe posée. Bon, on termine, Marie, je ne peux plus. Ça me bouleverse, tu sais, tu m'avais... Normalement, dans la vie quotidienne, j'oublie ça. Mais dès que je te rencontre, je pense à la guerre. Tu sais, il faut parler avec les gens qui ont réussi quand même d'oublier. Il y a sans doute les gens qui ont réussi d'oublier, sans doute, pas moi.
À l'époque où je vivais à Sarajevo, heureusement que je pouvais aller chez Goran Djapic. Moi, j'étais partie à Sarajevo comme on part sur une île déserte avec un livre, Hölderlin dans la Pléiade. Et chez Goran, il y avait des polars français. Il y avait une particularité avant la guerre de Sarajevo, particularité pendant la guerre de Sarajevo. On a beaucoup parlé de l'âme de Sarajevo, d'une façon d'être ensemble, de cette ville qui était représentative d'une tolérance multiculturelle. Tu dis que la guerre n'est pas finie, est-ce qu'aussi la résistance particulière de Sarajevo continue?
Mais oui, Sarajevo, il y avait quelque chose. C'est difficile de vraiment de définir qu'est-ce que c'était en Sarajevo. Et je pense que même beaucoup de gens de Sarajevo n'étaient pas beaucoup dans la violence de la guerre. Mais d'autre côté, ils n'ont pas beaucoup fait pour prévenir la guerre ni de se poser beaucoup de questions sur tout ce qui se passait. Donc c'est difficile pour moi de voir l'âme de Sarajevo, mais c'est l'air le plus fin qu'on respire parfois, et on essaye de parfois d'avoir ce bouffe d'air. C'est ça que j'aimais dans Sarajevo, c'est l'esprit relativiste qui se moquait de tout. Mais je me doute maintenant, est-ce qu'on a le droit de relativiser toutes les choses? Parce qu'on a pris beaucoup de choses au sérieux pendant la guerre. Et donc, ça veut dire que cette âme ou l'esprit relativiste a un peu disparu. Et j'espère qu'avec les ans qui viennent, on va renouveler ça. Et la leçon de Sarajevo pour moi, c'était de poser des questions. Et l'esprit de Sarajevo, peut-être, était à créer une ambiance propice à poser des questions. Ça veut dire de relativiser des choses. Mais maintenant, je doute.
Le discours solidaire d'un certain nombre d'Européens, je parle là des individus qui ont été là avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il te semble qu'il a été cohérent ou est-ce qu'il était naïf?
Mais c'est bien d'être naïf, je pense que c'est très bien, c'est très intelligent d'être naïf. C'est beaucoup plus intelligent ou plus valable d'être naïf que d'essayer d'être un peu plus expérimenté dans le monde. Et c'est ça qui, à moi personnel, m'a aidé beaucoup à survivre ici à Sarajevo. Pas physiquement, mais j'ai pensé, même si l'intelligence dit que ce serait pas possible de franchir le mur, mais il faut essayer.
Aïe, la fala.
Pendant la guerre, j'habitais à Skenderia et je passais tous les jours devant ce mur où il y avait ce graffiti « Ovdje nema niko nije normalan ». Ici, plus personne n'est normal. En revenant cette année, je vois que le graffiti est toujours là. Et me revoilà devant la maison chez Amra Terzic, là où j'habitais.
S'appelle le roulade de tsar.
Les roulades du tsar.
Oui. C'est le nom, je ne sais pas.
Goûte, c'est délicieux.
Tout le monde a dit ça.
C'est vrai.
Écoute, la guerre a changé tout. D'un côté, nous avons perdu 4 ans de la vie, vraiment. On a changé les idées, les mentalités, les priorités. Je connais beaucoup de monde qui est marié pendant la guerre, mais beaucoup de ces mariages. Parce que c'est l'autre chose. Nous ne sommes pas les mêmes pendant la guerre et pendant la paix. Nous avons les différentes priorités. Tout est différent. Et après la guerre, c'était une situation, quand il n'a pas su qu'est-ce qui se passe, la guerre va recommencer ou quoi. Je ne sais pas. On ne peut pas faire une comparaison avant la guerre et après la guerre. C'est absolument différent. Avant la guerre, nous avons une sécurité, comment on disait.
Assurance.
Oui, assurance. Tout le monde avait un boulot, tout le monde a assuré. Tu n'as pas dû travailler pour avoir l'aide médicale, etc. Maintenant, c'est différent. Tout le monde pense différent. C'est ça?
Mm-hmm.
C'est ça.
Pour toi, il n'y a pas d'espoir à Sarajevo?
Non. Je suis membre d'un parti politique. Je suis femme. J'ai passé 35 ans. Je suis morte. C'est ça. Je ne sais pas, vraiment. Je suis désespérée maintenant. Tu sais, je ne peux pas analyser si tous les jours je bois du café, je ne vais pas analyser. Vous pouvez demander, parce que vous regardez la situation de l'autre côté. Vous pouvez voir la différence. Je ne peux pas. Je suis ici. Tous les jours, ça change un peu. On ne voit pas que la vie se change. Tu sais, si tu viens après 5 ans sur une place, tu vois toutes les différences. Mais pas moi, parce que je suis acteur de faire les différences.
Je dis souvent, quand je suis montée en avion après la guerre, quand nous sommes partis pour Saint-Nazaire, bon, j'étais dans une dépression, ce qui est normal. Beaucoup de femmes sont allées dans la maison, des alignées. Et puis quand je me suis trouvée en avion, quand on a décollé dans cet avion, mais j'ai senti vraiment, j'ai un sentiment de ma libération personnelle. Quand je suis trouvée parmi les nuages, regardez les nuages blancs sous les petites fenêtres de l'avion. Alors, j'ai senti un tel soulagement que je ne peux pas décrire. Ça, c'est vraiment un sentiment plutôt physique. Quand je suis libérée, que je me suis tirée de tout ça. Je ne peux pas décrire. Alors, la conversation normale avec le voisin d'un avion, on a commencé à vivre, on a commencé à n'avoir plus peur. Parce qu'on a peur de toute personne que tu rencontres. Tu ne sais pas d'où vient ce danger, cette mort.
Après les accords du Dayton, c'est là que j'ai découvert ce quartier Gorbavitsa où habitait Vinka Juričić. Et ce qui était très impressionnant, c'est que partout, il y avait ces bandes rouges et blanches qui délimitaient les endroits où c'était miné. Et on était en plein milieu de la ville, et avant de partir, les Tchétniks, les Serbes qui étaient partis, avaient miné complètement ce quartier. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de toi, ton mari
Pendant la guerre?
Oui.
Oui, ça c'est toujours difficile pour moi. On était ici, dans ce quartier qui a été sous le contrôle serbe pendant la guerre. Alors la rive gauche de Miljacka, c'est ce quartier qui s'appelle Grbavica. On a vécu dans une sorte d'enfer pendant 4 années. Et puis ils ont pris les hommes, surtout les hommes, pour les travaux forcés. Un jour, ils ont cherché mon mari. Il est allé avec les autres, avec les musulmans, les croates. Et ils ont dit travailler, ils ont dit creuser la terre, les tranchées, tout ça. Pendant 10 jours et des nuits, sans pause, sans dimanche, sans repos. C'est ce qui est écrit dans le journal qui a été publié cette année. Et bien un jour... Il a été tué. Il a creusé cette tranchée. Et puis les deux Tchétniks sont venus le chercher pour alors voir quelque chose dans la forêt. Et puis là, c'était quand on va à Trebević, c'est une petite montagne, un petit mont au-dessus de Sarajevo. Et là, il y avait un coup de sniper, un seul coup. Alors ça, c'est... C'était vraiment un assassinat qui a été organisé. C'était 1993. Et puis tu te souviens de cette poésie qu'il a écrite pendant la guerre, avant de mourir. Il a écrit alors clandestinement, à la main, parce qu'on ne pouvait pas taper la machine. On avait peur tout le temps. On vivait dans une peur... On ne peut pas décrire. Et après la guerre, on m'a cherché de publier cette poésie qu'il a écrite pendant la guerre. Mais moi, alors, je ne voulais pas. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peur, je ne voulais pas du tout. Mais après 10 ans, parce que cette année, c'était l'anniversaire, alors 10 ans de sa mort, c'est l'Association des écrivains de la Bosnie qui ont eu l'idée de marquer cet anniversaire. Et puis, ils m'ont demandé ce manuscrit. Et puis alors, j'ai accepté. Et ils voulaient publier ça. Mais moi, je ne voulais pas à cette époque. Tu sais. Parce que dans ce quartier, il y a des femmes serbes qui ont fait beaucoup de mal. Bon, elles sont présentes dans ce livre, bien sûr. Et moi, pour... je ne sais pas... À cause de leurs enfants, à cause de... On a été voisins. Moi, j'ai changé des initiales d'une femme qui est ma voisine. Elle habite ici, dans la maison. Ça, c'est intéressant. Elle a fait beaucoup de mal. Elle a volé. Elle a décidé des vies des gens ici. Tu sais, c'était une personne très, très dangereuse pendant la guerre. Et il y a encore une chose très intéressante à propos de cette femme. L'autre voisin, qui habite le même immeuble, il m'a prié l'autre jour d'aller avec lui à la police et de leur dire qu'il s'agit de cette femme. Moi, je ne voulais pas. Alors, ce n'est pas fait pour ça, hein, pour aller à la police, pour persécuter les gens. Ce n'est pas mon travail. Ça, c'est la littérature. Et bon, alors, je crois qu'il s'est fâché. Lui, il a souffert aussi beaucoup pendant la guerre. Et ce qui est intéressant, lui, il est serbe. Mais il ne voulait pas se battre avec les Serbes, porter leur uniforme. Et puis maintenant, il veut se venger, il veut...
Tu sais, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne.
Ça, c'est une voisine.
On va prendre le café avec.
Mais je pensais à sa fille, qui est une fille très bien. Elle vit maintenant en Novi Sad. Elle s'est mariée, etc., etc. Peut-être à cause d'elle, alors je ne voulais pas mettre son nom. Je ne voulais pas le faire pour dénoncer quelqu'un. Ce n'est pas mon travail, mon Dieu. N'est-ce pas? Mais ce voisin qui habite au-dessous de moi, l'appartement sous le mien. Bon, c'est un homme bien, mais il est plein de haine. Il a une envie de se venger, de la tuer même, cette personne qui habite vis-à-vis de lui. Tu sais, ça, c'est pas possible, tout ça. Mais ce quartier, qui s'appelle Grbavica, il a vraiment quelque chose, encore aujourd'hui, quelque chose de sinistre, de morbide, même aujourd'hui. Alors, la plupart de ces maisons a été reconstruite, tout ça, mais quand même, on ne peut pas oublier. Là, par exemple, dans une rue où il n'y a pas de lumière, comme devant notre maison, il n'y a pas encore de lampe. Alors, on pense que c'est encore la guerre. Hein. Le noir, maintenant... Il y aura quelques figures barbues qui sortira du noir. Hein. On a peur aujourd'hui encore. Bon, pour les gens qui ont vécu tout ça.
Kradem ti se u večeri, u večeri pod penđeri, da ti bacim strug zumbula, nek ti cvije
dušo za to.
Que peut ce petit oiseau? Merle qui tient tout entier dans son champ, que peut cette boule de plumes? Je l'entends qui lutte contre rafales, roquettes et mines. Il les efface de sa voix si sonore, voix têtue de la vérité. Ce cœur qui bat 1000 fois en une minute, plus vite que toutes les rafales. Ce petit oiseau merle a dans son champ plus de force que tous les canons, les munitions. Un cœur énorme il a, plus grand que les généraux jeunes et furieux. Il est debout, droit, sur un arbre dans une allée qui n'existe plus. Fier, sur une branche brisée, sur l'unique branche, sur une seule patte. Il chante pendant que la terre tremble, pendant que les gratte-ciels tanguent, les vitres éclatent, le ciel brûle et s'effondrent les couronnes des plus hauts peupliers. Le merle chante, sa voix tombe goutte à goutte, cette cloche, carillon, cette diane matinale, cette pluie féconde, force primordiale venue du fond des âges et s'ouvre des fenêtres qui n'existent plus, dans des maisons qui n'existent plus, avec lenteur, frayeur, mais elle s'ouvre. Chant qui sourd de nos caves et monte au plus haut des montagnes. Et chante le merle, voix qui lutte, oui, vie qui siffle, grince les portes de corridors qui n'existent plus. Les locataires sortent sans bruit, des ombres, mais ils sortent. Des locataires qui sont là, oui, ils sont là. Ils vont vers les montagnes, leur chanson se fait plus claire, leur chanson se fait plus forte. Le toit de ma maison brûle, s'effondre, écroule, tombe le plafond, s'ouvre un vide béant, les fenêtres se couvrent dessus, ma bibliothèque brûle, moi et mon univers soudain sommes douleur. Je deviens sciemment la cible du tireur, je l'appelle à pleine voix, je prie mon ami de tirer sur moi, j'ai peur que si ma main me reste, je n'aurai plus où aller pour cacher ma honte. Sarajevo, le 31 mai 1992. Yakov Jurišits, il était une fois un petit oiseau, merle. Ode au courage.
Sandra.
Et tu es née à Sarajevo ?
Oui, je suis née à Sarajevo.
Tu as quel âge ?
J'ai 13 ans et demi.
Et tu es partie quand de Sarajevo ?
Je suis partie en 1992,
oui.
Quand la guerre a commencé, et puis j'étais 5 ans là-bas. À Genève, en Suisse en fait, en Genève.
Et tu te souviens de avant la guerre ?
Bien non, j'étais petite, je me souviens de rien. Je sais même pas si quelqu'un m'a pas dit que ça s'est passé, je le savais pas.
Et qu'est-ce qu'ils t'ont raconté, tes parents ?
Bien, mes parents m'ont dit que quand la guerre a commencé, alors on ne pouvait pas vivre ici parce qu'on pouvait être mort, je ne sais pas. Et puis on devait aller là-bas. Et mon frère, il était déjà là-bas avant. Parce que lui, il vit là-bas. Il y avait beaucoup de temps avant que la guerre a commencé. Alors on était chez lui, à Genève. À la télévision de Genève, il y avait une montrée des maisons qui étaient en feu, des gens qui étaient... par terre sur la rue, et puis il y avait beaucoup de sang, ils étaient blessés, comme ça.
Et est-ce que tes parents te parlent encore de la guerre maintenant?
Non. Bon, ils parlent entre eux des fois, mais pas moi. Parce que moi, j'ai tellement pas envie d'entendre ça. Puis ça, j'ai peur un peu qu'on parle de la guerre.
Tu leur poses pas de questions alors?
Non.
Et tu es revenue ici cette année?
Non, il y a déjà 7 ans que je suis ici. Parce que maintenant je vais à l'école, je suis 7e classe et puis voilà, comme ça.
Et quand tu es arrivée ici il y a 7 ans, tu as vu cette ville, qu'est-ce
oui.
que tu en as pensé?
Bien, je pensais que c'était horrible. J'aimais pas que je suis née ici, j'aimais pas cette ville. Tout était cassé, les maisons, puis l'école, elle était aussi moche. Il y avait rien, il y avait juste des chaises, des tables, c'était pas du tout comme à Genève. Et puis alors, j'ai pensé que non, ça me plaisait pas du tout. Bon, mais après, ouais, ça va maintenant.
Tu t'es habituée?
Oui.
Est-ce qu'il y a des différences qui sont faites entre ceux qui étaient partis pendant la guerre et ceux qui sont restés là pendant la guerre?
Bien oui, parce que ceux qui sont restés là, un peu, ils se souviennent, même s'ils étaient petits. Et puis, ils parlent différemment, ils ont vu ça. Mais nous, non. Nous, on a juste regardé par la télé et puis on comprend pas comment c'était à eux. Quand même, c'est pas la même chose d'être là-bas regardé, d'être ici et avoir vécu tout ça. Et puis, ils racontent souvent que de ses parents, il y a des parents de mes copines et des copains qui n'ont pas de mains, de pieds. Alors, pour eux, c'est très difficile. Et pour moi, non, parce que tout le monde va bien et puis on était tout le monde là-bas.
Qu'est-ce qui te plaît ici?
Ici, bien, maintenant, c'est mes copines, mes copains, mon école aussi, maintenant, elle est belle. Et bien, la ville, elle a quelque chose, c'est quand même la ville où je suis née.
La fillette est persuadée que les souris et les rats envahissent toutes les nuits sa chambre. Elle évoque au matin des cohortes grises, rapides, silencieuses, avec d'autres détails que ses parents prennent pour des broderies imaginatives. Comme personne n'accorde foi à ses dires, elle cherche un moyen de les prouver. Alors, un soir, elle sème du poivre le long des plinthes de sa chambre. Comme cela, pense-t-elle, on les entendra éternuer. Le matin, on retrouve la petite fille en larmes dans son lit. Sans doute aura-t-elle frotté ses yeux avec ses doigts pleins de poivre. Mais personne ne remarque que derrière les étagères, l'intérieur des livres est rongé. et que la poupée préférée de la fillette a disparu.
Dans ces forts en thème réalisés aujourd'hui par Didier Rossa, qui vous était proposé par Marie Fréring et Jenny Beck, vous avez entendu Sandra Metchan, Vinka Juričić, professeur de français, Amra Terzic, économiste, Goran Djapic, écrivain, Vera Arapovic, journaliste, Nada Bojanic, professeur d'arabe, Emirka Besic, interprète, Jovan Divjak, ex-général de l'armée bosniaque, Stanko Vasic, garagiste, et Alima Mušić, actrice. Véronique Marty lisait les textes d'Ivo Andrić et Jakov Juričić. Et Jean-Marie Félix lisait le journal de Marie Fréring. La semaine prochaine, dans les forts en thème, Lucille Solari vous fera découvrir de belles utopies architecturales, et en particulier le Familistère de Gaudin. Pour en savoir plus, vous connaissez la solution, vous tapez rsr.ch/lesforts en thème ou vous nous écrivez à lesforts en thème@rsr.ch ou encore à Les Forts en thème, Radio Suisse Romande, 40 Avenue du Temple, 1010, Lausanne.
Les Forts en thème, présentés par l'AGFI, le quotidien économique suisse, du lundi au vendredi.
La suite sur Espace 2, c'est dans un instant, en compagnie de Vincent Zanetti pour l'écoute des mondes. Belle soirée.
Samedi 29 novembre, soirée jazz en direct et en public au studio 15 de la Radio Suisse Romande à Lausanne. Vous pourrez assister au vernissage du CD Reflections du trio de Thierry Lang et entendre également le violoniste Didier Lockwood, le trompettiste Paolo Frezu ou encore le saxophoniste Andy Scherer. Session jazz, samedi 29 novembre dès 20h sur Espace 2 et en public au studio 15 de Lausanne. L'entrée est libre, mais la réservation obligatoire au 021 318 18 55. Avec le quotidien 24h.
Bonsoir Martine. Des ateliers de musique et de danse, des concerts et des festivals, une revue d'importance internationale, des colloques et depuis plus d'un an une nouvelle collection discographique. Les ateliers d'ethnomusicologie de Genève ont 20 ans et ça se fête. Soyez les bienvenus à l'écoute des mondes.